Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 38e soirée d'éthique publique, la troisième de cette année universitaire du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, le premier mardi de chaque mois. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Beaucoup sont dans les autres salles avec retransmission vidéo, mais nous sommes aussi reliés, non seulement, nous en avons maintenant l'habitude depuis les dernières fois, à l'espace Saint-Ignace à Lyon et à la paroisse Notre-Dame-des-Anges à Bordeaux, mais aussi ce soir pour la première fois, nous sommes reliés à Poitiers, en lien avec la formation permanente du diocèse. Bonsoir donc à tous nos auditeurs un peu partout en France, rassemblés pour cette soirée d'éthique publique. Je rappelle qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de toutes les soirées précédentes sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Notre rencontre de ce soir est en partenariat d'abord avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, et je suis heureux de saluer le père Bruno Sainteau, qui est le responsable de ce département, et aussi avec l'hebdomadaire Pèlerin. Et je suis heureux de saluer Antoine Dabundo, rédacteur en chef du Pèlerin, qui animera avec moi cette soirée. Soirée qui fait écho à la sortie d'un numéro spécial du Pèlerin que certains ont pu découvrir en octobre dernier, avec un dossier qui porte le même titre que notre rencontre, « Fin de vie, quelle société voulons-nous ?» Alors inutile, bien sûr, de préciser combien cette soirée s'inscrit dans une actualité importante pour notre pays. C'est en effet, je crois, le 18 décembre prochain que le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, chargé en juillet dernier par le président de la République d'une mission de réflexion sur la fin de vie, remettra son rapport pour tenter d'éclairer les grands enjeux de la fin de vie dans notre pays, et en particulier la nécessité ou non d'aller plus loin que la loi Leonetti de 2005. Vous le savez sans doute, des débats citoyens ont été organisés pour échanger sur le sujet, notamment l'opportunité ou non de légaliser l'euthanasie en France. À Strasbourg, Montpellier, Grenoble, Besançon, Clermont-Ferrand, Lille, Nantes, Lyon samedi dernier. Samedi prochain, ce sera, je crois, au Havre, avant le dernier débat citoyen, le 15 décembre à Paris, à l'Université Paris Diderot. Eh bien, nous voudrions ce soir apporter notre propre pierre au débat afin d'aider à se faire une opinion sur ce sujet délicat qui touche à l'intimité et aux valeurs fondamentales de notre société. Comment répondre aux inquiétudes, aux angoisses des Français face à la perte d'autonomie, la souffrance, la solitude face à la mort? Que dit précisément la loi française? Quel conflit de valeurs se joue là? Que se passe-t-il aussi à l'étranger? Quelles sont les pistes concrètes évoquées? On dit souvent que la valeur d'une civilisation se mesure à la manière dont elle traite les plus fragiles. Alors, quelle société voulons-nous? La réponse ne peut pas être que technique, elle est forcément éthique, et nous voudrions ensemble, ce soir, contribuer à cette réflexion. Pour nous aider, deux invités que va maintenant nous présenter Antoine en redisant avec ses mots à lui et dans l'objectif aussi du projet éditorial du Pèlerin, eh bien ce que la revue Pèlerin attend de cette soirée.
Merci François. Bonsoir à tous qui êtes dans la salle et puis qui nous suivez derrière un écran. François a déjà largement présenté les enjeux de cette soirée. Je voudrais la resituer brièvement. Ce débat sur une possible légalisation de l'euthanasie dans notre pays n'est pas nouveau. On peut même dire que depuis une trentaine d'années, il s'invite régulièrement dans l'espace public français. Mais il a pris un tour nouveau lors de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, avec l'engagement pris par le candidat socialiste François Hollande, c'était sa proposition 21, d'ouvrir dans certains cas, et je cite cette proposition, sous conditions précises et strictes, un droit à bénéficier d'une assistance médicale, médicalisée, pour terminer sa vie dans la dignité. On remarquera au passage que le mot d'euthanasie n'est jamais prononcé, même si tout le monde a bien compris que c'est de cela qu'il s'agit. Devenu président de la République, François Hollande va-t-il tenir sa promesse ? Prudent, il s'est contenté, pour l'instant, de confier, François l'a rappelé, une mission au professeur Didier Sicard, chargé de recueillir l'avis des citoyens, et qui devrait remettre donc ses conclusions dans les prochains jours, sans doute le 18 décembre. Ce débat sur l'euthanasie et celui, bien plus large, sur la fin de vie posent de nombreuses questions délicates que Pellerin, dans ce numéro spécial, mais également dans le numéro de cette semaine, en donnant la parole cette fois-ci à nos lecteurs qui ont témoigné des expériences qu'ils avaient pu vivre dans leur famille, expériences quelquefois douloureuses, quelquefois lumineuses. Ce débat donc pose de nombreuses questions sur le plan médical, juridique et éthique. Et pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous deux éminentes personnalités, le docteur Marie-Sylvie Richard, Xavier, spécialiste des soins palliatifs, médecin à la maison Jeanne Garnier à Paris et enseignante en éthique médicale, et le père Patrick Verspiren, responsable du département d'éthique biomédicale des facultés jésuites de Paris. Ancien responsable, me dit François. Bon, moi je l'ai rencontré... Je les remercie tous deux d'avoir accepté notre invitation. Pour la clarté de notre exposé, le père Verspiren va d'abord nous présenter le contexte de ce débat pour mieux comprendre comment la société française en est venue à envisager cette pratique de l'euthanasie. Puis le docteur Richard nous expliquera ce que sont les soins palliatifs, autrement dit la manière dont on accompagne en France et soulage la souffrance. Et puis, nous lui demanderons également de faire un rapide état des lieux de la situation française en ce domaine, ce que l'on a fait au cours de ces dernières années, et il y a beaucoup de tâches qui ont été accomplies, mais aussi, sans doute, ce qui reste à faire, et la tâche n'est pas moins grande. Et puis ensuite, le père Boédek et moi-même nous livrerons à quelques questions à nos deux intervenants, avant de vous donner la parole, si vous avez des questions supplémentaires. Pour terminer notre soirée, on l'espère, un peu plus riche qu'en la commençant. Père Verspiren, donc, vous avez la parole pour un exposé d'une quinzaine de minutes.
Bien, comment en sommes venus là à débattre dans la société française d'une éventuelle approbation par le droit? Est-ce que c'est le mot légalisation? On ne sait pas. Du fait de provoquer délibérément la mort d'un malade à sa demande. La proposition de loi du candidat François Hollande a beaucoup joué pour remettre cette question au centre des débats. Mais je voudrais d'abord faire une première remarque. Nous aurions tous à nous interroger sur notre propre rapport à la mort concrète, c'est-à-dire à la nôtre ou à celle de nos proches, la nôtre qui se produira dans un temps plus ou moins éloigné, celle de nos proches, eh bien nous sommes dans des situations très différentes. Nous devrions nous demander, aider nos concitoyens à se demander quelles sont les peurs qui nous habitent à ce propos-là et comment les apaiser un peu pour nous rendre davantage capables d'avoir un regard, un jugement juste et soucieux d'autrui, respectueux d'autrui. Parce que bien des observateurs de la société nous parlent de déni de la mort, peut-être qu'il vaudrait mieux parler de refoulement de la mort. Alors, un petit exemple, après l'adoption de la loi Leonetti, mais sous la suggestion antérieure de Marie de Hensel, a été créée une ligne téléphonique Azur, nationale, où tout le monde peut téléphoner. Cette ligne s'appelle « Accompagner la fin de vie, s'informer, en parler ». Et c'était très utile pour faire connaître les lois et pour donner la parole à des personnes, à des familles, à des malades qui sont peut-être très inquiets, très angoissés. Cette ligne si utile n'est pratiquement pas utilisée. Et pourquoi n'est-elle pas utilisée? Parce que finalement, personne ou presque n'en connaît l'existence. Et pourquoi n'en connaît-on pas l'existence? Parce qu'on n'a pas fait de publicité. Et pourquoi pas de publicité? Eh bien, ceux qui avaient à faire cette publicité ont répondu « Il est trop difficile dans notre société de parler de la mort. » De parler de la mort qui nous concernerait. Alors, le surprenant, c'est qu'on parle beaucoup d'euthanasie. Alors, je me demande si l'euthanasie dans notre imaginaire ou dans l'imaginaire de nos concitoyens n'est pas comme un moyen d'échapper à la mort, paradoxalement. D'échapper à la mort. Du moins, d'échapper au temps, à la durée du mourir. D'échapper aux altérations du corps et des capacités mentales qui peuvent nous faire peur. Et puis, un moyen de se rendre maître de la mort. Et finalement, si on vainc la mort ainsi, eh bien, est-ce qu'on ne la supprime pas ou est-ce qu'on ne leur tire pas son aiguillon? Je me demande s'il n'y a pas tout ça derrière ce fait qu'on parle si facilement de l'euthanasie de manière aussi simpliste. Alors, comment en est-on venu là? Comment en est-on venu à cette proposition 21? Eh bien, il faut reconnaître que ce débat n'est pas neuf. Je me souviens, pour ma part, de ce qui a été appelé le manifeste des prix Nobel en faveur de l'euthanasie. C'était en juillet 1974, c'est-à-dire il y a 48 ans. À l'époque, on pouvait repérer facilement deux grandes peurs. La peur de l'acharnement thérapeutique, d'autant plus que les médecins se croyaient dans l'obligation morale et juridique de maintenir la vie autant qu'ils le pouvaient, de maintenir la vie à tout prix. Et d'ailleurs, c'était pratiquement marqué dans le code de déontologie médicale de l'époque. Et haute, grande peur, la peur de la souffrance qui peut accompagner certaines fins de vie, peur de la souffrance parce que les facultés de médecine enseignaient officiellement et convainquaient tous les étudiants en médecine et tous les médecins que les médicaments antidouleurs efficaces, comme la morphine, ne pouvaient pas être utilisés de façon un peu prolongée parce que enseignaient les enseignants et écrivaient les revues médicales parce que la morphine utilisée de façon un peu prolongée produirait des toxicomanies et des dépressions respiratoires qui entraîneraient rapidement la mort. Et donc, eh bien, les médecins n'employaient pas les médicaments efficaces qui pourtant existaient pour soulager les douleurs intenses de la fin de vie. Il y a 50 ans, beaucoup à faire. Des médecins ont pris ça à bras le corps, notamment une femme, une Anglaise, Cecily Saunders, qui a développé les soins qui ensuite ont été appelés les soins palliatifs et qui a utilisé de manière efficace les médications dont on disposait. Le docteur Marie-Sylvie Richard expliquera tout cela, développera tout cela. En France, dès le milieu des années 70, deux femmes, médecins aussi, les docteurs Monique Tavernier et Michel Salamagne, ont commencé à utiliser ces méthodes de soins et progressivement ont été suivies par des multiples médecins. Donc je ne développerai pas davantage, sauf que pour dire que depuis lors, beaucoup a été fait et ce n'est pas assez dit. Beaucoup reste à faire en ce domaine et ce n'est pas assez dit. L'autre grande peur, c'était la peur de l'acharnement thérapeutique. La déontologie médicale de 1975 était contestable. Alors en fait, dès 1974, le journal du Centre Laennec, après l'organisation de conférences-débats, a tenu à attirer l'attention sur ce point, avec la publication d'un numéro spécial qui a été signalé, un numéro spécial intitulé « Respecter la vie, respecter la mort ». Cette publication a eu des échos. Déjà, d'ailleurs, la jurisprudence française reconnaissait, faisait place au refus de traitement. Il a fallu attendre 1994 pour que la loi précise que tout acte médical n'est acceptable que s'il y a consentement de la personne, d'une personne qui soit apte à exprimer consentement ou refus. En 1995, le code de déontologie médicale affirme que le médecin, je cite, « doit éviter toute obstination déraisonnable dans les examens et les traitements ». Et c'est repris en 2002 par la loi qui insiste sur l'obligation de recueil du consentement du malade. Donc, 2002, les soins palliatifs ont progressé. La loi reconnaît le droit au refus de traitement, pour tout malade, le droit au refus de traitement. Le code de déontologie médicale réprouve l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique. Donc, les jalons du respect des malades étaient nettement posés à cette époque, dès 2002. Et pourtant, dès 2002-2003, on assiste à un emballement du discours relatif à la légalisation de l'euthanasie. On assiste à une médiatisation incroyable, une grande place donnée dans les médias et surtout dans les médias audiovisuels à quelques cas, quelques affaires très émouvantes, présentées de manière dramatique, mais avec un discours implicite ou très explicite. Il vaudrait mieux que ces malades meurent. Il vaudrait mieux qu'on fasse mourir ces malades parce qu'ils le demandent. Le cas qui a beaucoup marqué et qui est en fait le plus marqué est le cas d'un jeune homme, Vincent Humbert. Et j'avoue le choc que j'ai ressenti. C'était le 16 décembre 2002, lorsque sur les kiosques de la ville de Paris, j'ai découvert comme un coup de poing à l'estomac cette première page. Monsieur le Président, je vous demande le droit de mourir. Avec la photo d'un jeune homme qui paraît en pleine possession de ses moyens. Je vous demande le droit de mourir. Cette affaire a été très médiatisée, vous en souvenez encore sans doute. Ce jeune homme donc... demandé à mourir, certes, mais quelle information a été donnée? Je crois qu'on peut dire que l'information a été tronquée. Il n'y a pas eu d'effort dans les médias audiovisuels pour essayer de connaître réellement ce qui s'était passé. En fait, ce jeune homme a été soigné pendant près de 3 ans dans un service de réadaptation à Berck-sur-Mer, de la fin novembre 2000 au 25 septembre 2003. Eh bien, aucun des soignants de ces services qui ont communiqué avec ce jeune homme, aucun n'a été contacté par les journalistes des médias audiovisuels pour avoir une information complète par rapport à ce qui était dit alors. Le quotidien du médecin, le 7 octobre, a bien publié un article intitulé « Ce qui n'a pas été dit », aucune reprise à la télévision. La parole est donnée parmi les médecins uniquement au réanimateur qui a provoqué la mort de ce jeune homme. Ce réanimateur n'avait pas eu la moindre possibilité de communication avec le jeune homme. Les autres soignants, eux, avaient communiqué pendant près de 3 ans. La parole ne leur a pas été donnée. Donc l'information a été fausse sur des points importants comme les capacités mentales de ce jeune homme. On l'a présenté comme capable d'exprimer librement sa volonté, ce qui est totalement mis en doute par les médecins aujourd'hui, et notamment par le professeur Puybassé, qui est réanimateur en neurologie. Lui-même a écrit avec une journaliste le livre « Euthanasie, le débat tronqué ». Pour ma part, je me suis toujours interrogé, dès le départ, pour savoir qui avait rédigé la lettre qui a été publiée. Ce jeune homme, j'en suis persuadé, n'en était pas capable, et les médecins le disent aujourd'hui. Donc ces cas ont été simplifiés. On n'a pas montré la fragilité de ces patients, la vulnérabilité par rapport à leur entourage. On n'a pas dit ce qui s'était passé réellement, ce qui avait visité ce jeune homme et sa mère. On a donc dispensé les Français de réfléchir. On a présenté des solutions comme allant de soi, la mort, sans parler des souffrances et des doutes de ces malades vis-à-vis du sens de leur vie, et sans s'interroger, mais qu'est-ce qui aurait pu être fait pour aider ces malades à vivre? Donc, ça aurait été trop compliqué de poser ces questions-là, et ce ne leur a pas été dans le sens de l'émotion recherchée. Après ce cas dont on a beaucoup parlé, après l'émoi de tous les Français, une mission est confiée à M. Leonetti, le député bien connu, chargé d'une mission d'information. Il prend son temps, sans perdre son temps. Il auditionne largement, ce qui permet de rédiger un rapport assez circonstancié et d'en tirer une proposition de loi. Ça devient la loi Leonetti qui calme les esprits et donne des garanties aux malades, aux médecins et aux soignants. Donc tout est retombé, le soufflet semble retomber, mais le débat est relancé par d'autres affaires qui vont être de nouveau médiatisées, et dont l'affaire de Chantal Sébir, cette femme dont le visage était très déformé par un cancer, mais dont on n'a pas dit non plus des choses essentielles. C'est-à-dire que cette femme qu'on sentait souffrir beaucoup, cette femme, on n'a pas dit qu'elle refusait les antalgiques. Alors, où en est l'opinion publique? Eh bien, dans son ensemble, semble-t-il, le corps des journalistes des médias audiovisuels est fixé sur des idées simples. Un droit à la mort viendrait compléter les droits déjà existants, et donc ça serait un plus. Deuxièmement, la France est en retard. Regardez, une carte de géographie, les Pays-Bas ont légalisé l'euthanasie en 2001, la Belgique en 2002, le Luxembourg en 2009, eh bien la France est au sud, c'est au tour de la France. Pourquoi la France est-elle en retard? Je pense qu'on discutera de cela tout à l'heure. 94% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie, dit-on. Mais après des sondages dont les questions sont ce qu'elles sont. Alors, d'autres sondages ont été menés, dont un sondage qui a été publié en janvier 2011, par une autre institution de sondage, OpinionWay. Quelques enseignements tirés de ce sondage, je lis rapidement, 53% des Français se déclarent insuffisamment informés sur les soins palliatifs, 68% des Français ne savent pas qu'il existe une loi interdisant l'acharnement thérapeutique, 68% des Français, donc un manque flagrant d'information. Vis-à-vis de la légalisation de l'euthanasie, beaucoup envisagent cette légalisation, mais quand on les interroge, pensez-vous qu'il y a des risques de dérive? Plus de la moitié des Français, 52%, souligne l'existence de risques de dérive liés à la légalisation de l'euthanasie. 63% des Français préfèrent qu'un de leurs proches gravement malade bénéficie de soins palliatifs. Quand il s'agit de ceux qu'on aime, alors demander leur mort, être leur interprète pour demander la mort. Eh bien, 63% des Français préfèrent que leur proches bénéficient de soins palliatifs. Ces résultats expliquent que 60% des Français préfèrent le développement des soins palliatifs à la légalisation de l'euthanasie. Bon. Sondage qui va contre d'autres sondages dont les questions ne sont pas les mêmes. Quand on pose des questions, on obtient des réponses à ces questions. Bon. Mais qu'en est-il vraiment de l'opinion des Français ? C'est ce que cherche à savoir actuellement M. Sicard. Mais il organise donc des réunions et il voudrait l'opinion des agriculteurs, des ouvriers, de ceux qu'on n'entend pas à la télévision. Il constate que ceux qui viennent à ces réunions, c'est un peu toujours les mêmes, les militants des associations, ceux qui militent dans un sens, ceux qui militent dans l'autre, et les professionnels de la santé. Donc, le point de vue profond de tous les Français, eh bien, comme d'habitude, on ne le connaît pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aura beaucoup d'importance le rapport qui devrait déposer dans deux semaines, par le professeur Didier Sicard. Alors, je vous invite tous à suivre cela et à voir ensuite quelle action mener à la suite de ce rapport que, je pense, nous attendons tous, car il sera important.
Merci. Merci beaucoup, Patrick, de cette présentation des termes du débat, comment la société française en est venue à envisager la pratique de l'euthanasie, en nous rappelant un peu les différentes étapes depuis 50 ans, depuis la peur de l'acharnement thérapeutique, l'apparition précisément des soins palliatifs, un certain nombre de cas médiatisés, comme le cas Imbert, la mission Leonetti, jusqu'à la situation aujourd'hui avec cette difficulté à savoir vraiment quel est l'avis, quel est le désir des Français. Alors on a déjà commencé à parler des soins palliatifs et c'est sans doute important de savoir exactement ce que cela recouvre. Et je laisse la parole à Marie-Sylvie Richard qui va nous expliquer aussi exactement ce que cela désigne, l'état des lieux en France, ce que l'on a fait, ce qu'il reste à faire.
Merci. Je pense qu'actuellement, on connaît mieux les soins palliatifs et vous avez sans doute déjà entendu des définitions. Je vais essayer de reprendre une définition et en même temps de vous faire part de notre expérience au quotidien. Alors, les soins palliatifs sont des soins actifs, première chose importante, actifs et continus. Ce n'est pas seulement prendre la main d'un malade et attendre qu'il s'apaise. Il y a toute une recherche de soins à faire auprès d'un patient atteint d'une maladie grave, c'est peut-être aussi d'une polypathologie. Les personnes âgées ont souvent plusieurs maladies et sont fatiguées de vivre avec toutes ces maladies. Et ça peut être aussi un handicap sévère, toutes ces pathologies arrivant en phase évoluée ou terminale. Et ces soins palliatifs sont donnés dans une approche globale de la personne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que la maladie ou la polypathologie ou le handicap. Alors, ils sont pratiqués par une équipe interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous avons besoin de beaucoup de compétences pour essayer d'entendre, de comprendre la souffrance de la personne et de tenter d'y apporter quelques solutions. Ils visent à soulager la douleur physique et les autres symptômes, à soulager de façon prioritaire, j'y reviendrai, et à apaiser la souffrance dans ses différentes dimensions, en sachant qu'il est classique de distinguer plusieurs composantes à la souffrance globale de la personne, une composante physique que l'on connaît bien, mais aussi une composante psychologique, une composante socio-familiale, quand le malade s'inquiète de ce qu'il est devenu, du statut qu'il n'a plus, de ses responsabilités qu'il ne peut plus assumer, de l'isolement qu'il peut ressentir, de la charge qu'il peut être pour les autres, et aussi une dimension spirituelle, avec le cortège de questions que l'on a, une dimension existentielle, pas seulement religieuse, mais qui peut se placer dans une recherche religieuse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi vais-je mourir? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que la mort? Y a-t-il un après? Toutes ces questions, bien sûr, habitent la personne atteinte d'une maladie grave, même si elle ne les exprime pas de façon claire. Et puis, soulager, apaiser la souffrance et accompagner la personne, ce qui veut dire qu'on se met à côté d'elle et que l'on chemine avec elle, pas à pas et à son allure. Et pour le mot accompagner, j'aime l'image de l'accompagnement musical, où finalement ceux qui accompagnent représentent le fond musical, mais pour mettre en évidence, pour donner encore de la valeur à celui qui est le principal acteur et qui est le malade ou la personne âgée ou la personne handicapée. C'est soutenir l'autre par un accompagnement. Alors ces soins palliatifs, où sont-ils prodigués? Eh bien en institution, à l'hôpital, en maison de retraite, en EHPAD, en maison aussi maintenant pour personnes porteuses d'handicap, ou aussi à domicile. Ils ont également comme objectif le soutien et l'accompagnement des proches. Je dis les proches parce que c'est plus large que la famille. Accompagnement, soutien et accompagnement des proches durant la maladie, durant les derniers moments de la vie, au moment du décès et aussi, si besoin, pendant le deuil. Et puis, il y a un troisième objectif des soins palliatifs qui est le soutien et la formation des soignants et des bénévoles d'accompagnement qui sont au service des malades et de leurs proches et qui sont sans cesse confrontés à la maladie grave et à la mort, ce qui n'est pas rien. Alors, ces soins palliatifs ont forcément des fondements. Et j'essayais de vous dire en quelques mots ce qui est pour nous fondamental et sur quoi on se repose, on se fonde pour être au service des malades. La première chose, c'est de considérer le malade comme une personne. Comme une personne, et pas comme une maladie où on dit parfois c'est une plante verte quand il n'y a plus beaucoup de conscience. Parfois, on a des images végétales qui viennent. Comme une personne, digne de respect, quel que soit son état, quelles que soient ses limites, quelles que soient ses facultés supérieures. Comme une personne. Et nous cherchons à prendre en compte les différentes dimensions de la personne et différentes dimensions de sa souffrance. Je viens de vous en parler tout à l'heure. Physique, psychologique, sociale, familiale, spirituelle. Prendre en compte aussi son histoire. Quand quelqu'un arrive, par exemple, à Jeanne Garnier, il a parfois 4 ans, 5 ans d'histoire de maladie avant, et nous le recevons comme ça, assez rapidement peut-être, enfin pour un séjour peut-être un petit peu court ou rapide, mais il a toute son histoire de maladie et il a toute son histoire de vie, bien sûr. Prendre en compte aussi sa personnalité, ses souhaits, son désir, ses habitudes personnelles et culturelles, ses convictions personnelles, ainsi que les liens avec son entourage. Et c'est sur ce fond de considération de la personne dans sa globalité, dans ses différentes dimensions, que l'on va établir ou chercher à établir une relation de confiance ou ce que l'on appelle souvent une alliance thérapeutique. Nous allons faire alliance avec le patient, même si celui-ci ne peut nous répondre que par quelques signes de tête ou simplement un serrement de main, ou pas du tout nous répondre, mais on peut établir, même avec quelqu'un qui est perturbé au niveau de sa vigilance, on peut établir une relation de confiance. Ça se lit dans le regard ou parfois dans le sourire. Alors, dans cette relation de confiance et dans cette alliance thérapeutique, nous allons chercher à préserver autant que possible la vigilance du malade, la capacité de communication, même si c'est non-verbal, et c'est souvent non-verbal, et l'autonomie, son autonomie, si minime soit-elle. Parfois, c'est juste porter le verre un tout petit peu vers la bouche. Ce n'est pas plus que ça, mais c'est la personne peut quand même tenir un tout petit peu son verre, et on soutiendra la main qui tient le verre. Ça, c'est encore un signe d'autonomie. Mais cette recherche n'empêche pas, et là vraiment j'ai envie de le crier, n'empêche pas d'utiliser tous les médicaments nécessaires pour soulager le patient et soulager sa douleur en particulier et ses symptômes, médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire une diminution de la vigilance, une plus grande somnolence, une certaine fatigue, mais qui ont souvent aussi comme effet d'améliorer le malade qui était abattu, submergé par sa souffrance et qui, une fois traité, revit, même si c'est pour peu de temps. Donc, préserver, chercher à préserver la communication avec la personne, même si c'est par un petit regard, un mouvement de paupière, la pression de la main, et en même temps, savoir prescrire et et engager tous les soins qui ne sont pas forcément médicamenteux hein, pour soulager le patient. Et avec tout cela, nous essayons de rechercher une médecine raisonnable, c'est-à-dire de chercher les solutions thérapeutiques adaptées à la personne, adaptées à sa situation d'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous avons un éventail assez extraordinaire de moyens techniques aujourd'hui, de moyens thérapeutiques, qu'il faut tout envisager, tout prescrire, quelle que soit la situation du malade. Chercher une médecine raisonnable. C'est une manière d'être, de se situer contre une obstination déraisonnable. Alors, il y a aussi comme fondement à notre action le fait de considérer la mort comme un processus naturel, comme l'ultime étape de la vie, c'est vraiment bête ce que je vous dis, et non comme un échec médical. Trop souvent, les médecins en particulier considèrent l'aggravation du patient et sa mort comme un échec de leur mission, de leur thérapeutique. Et c'est parce que c'est de l'ordre d'un échec que l'on cherche toujours à faire quelque chose en plus pour tenter de donner encore une chance au malade. Bien sûr, il faut se battre, mais en même temps se battre à bon escient et au bon moment. Et sachant cela, que la mort est une étape, un processus normal, nous essayons de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la fin, jusqu'au décès. En cherchant, comme je vous l'ai dit, dans une médecine raisonnable, à éviter des investigations ou des traitements agressifs qui ne servent pas à grand-chose, qui peuvent peut-être donner quelques informations au médecin, mais souvent c'est pour remplir le dossier plus que pour être au service du malade. Et on se refuse à provoquer intentionnellement la mort. Dans le code de déontologie, il est demandé qu'on prenne soin d'une vie qui s'éteint. Prendre soin, c'est très fort. Au niveau des familles, on n'en parle pas souvent, les proches. On dit qu'il est bon de les accompagner, de les soutenir. Je voudrais juste dire à quelles attentes et besoins nous sommes particulièrement sensibles. Les familles, elles ont besoin d'être accueillies et écoutées. Et les bénévoles d'accompagnement le savent encore mieux que moi. Elles ont besoin d'être reconnues comme proches du malade et non pas comme quelqu'un qui va venir gêner, surtout qu'on est dans un milieu hospitalier, gêner les soignants. Parfois, les familles sont un petit peu considérées comme des personnes certes importantes, mais un petit peu gênantes pour la vie du service. Elles ont besoin d'informations, d'être présentes auprès du malade et d'être utiles encore au malade. Et s'il est important de permettre au malade de tenir encore un petit peu son verre, même s'il n'a pas beaucoup de force, il est important de chercher avec les familles quels petits soins elles peuvent encore faire. Alors quand c'est à domicile, on est très inventif, très créatif. Quand on est à l'hôpital, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire parce qu'à l'hôpital, tout est prévu, tout est programmé, tout est du domaine des soignants. Or, les familles qui sont pendant des heures et parfois des journées et des nuits entières auprès du malade ne peuvent pas être simplement dans le fauteuil à contempler une personne qui est peut-être somnolente ou qui communique peu. Donc, être utile au patient. Avoir encore une certaine intimité avec lui. Si la famille est là, c'est peut-être pas nécessaire d'entrer et venir sans frapper en permanence et de les déranger. La famille a besoin d'être en relation avec l'équipe soignante et d'être accompagnée, d'être rassurée, d'avoir parfois des conseils pour communiquer avec le patient, des conseils pour savoir ce qu'il faut faire, faut-il rester, pas rester, est-ce que ça peut être encore utile d'être là auprès de lui qui est comateux ? À quoi sert ma présence ? Et si je lui parle, est-ce que je le fatigue ? Et si je le sollicite, est-ce que je le sollicite trop ? Elles ont besoin d'être aussi relayées parce qu'elles sont souvent bien fatiguées. Parfois, elles ont besoin d'aide matérielle. Les assistantes sociales ont aussi beaucoup, beaucoup de travail à faire auprès des familles et des proches. Et puis, elles ont, elles aussi, besoin de chercher un sens à cette épreuve d'accompagner quelqu'un de proche atteint d'une maladie grave qui est près de sa mort. Alors, ces soins palliatifs, il y a une grande date, celle du 9 juin 1999, jour où a été promulguée une loi visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. Toute personne malade dont l'État le requiert a droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Et puis un peu plus loin, parce qu'entre les deux, il y a la définition des soins palliatifs que je viens de vous donner, il est dit que cette personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique. Déjà, on voit que le malade est acteur, on le redit, que le malade peut dire non ou oui à ce qu'on lui propose. Il n'est pas seulement celui qui subit Alors, comment se sont développés ces soins palliatifs depuis 1999? Il y a deux manières de développer les soins palliatifs. D'abord, c'est une offre spécialisée en créant des lits de soins palliatifs, des équipes mobiles, qui sont des équipes conseil dans les hôpitaux, des lits identifiés, c'est-à-dire on reconnaît que dans tel service de médecine, de cancérologie, de gériatrie, il y a régulièrement tant de personnes qui sont en fin de vie et qui meurent. Eh bien, on va donner des moyens supplémentaires pour que ces soignants, là, dans ces services-là, puissent prendre soin de leurs personnes en fin de vie jusqu'au bout, sans les transférer ailleurs. On va créer des réseaux avec du personnel particulièrement qualifié. Réseau à domicile, en particulier, qui va faire le lien entre les différents intervenants libéraux et l'hôpital, par exemple. Ça, c'est une offre spécialisée. Et puis, il y a une prise en charge intégrée. C'est-à-dire qu'on va donner, on va chercher à donner aux professionnels de santé, où qu'ils soient, des repères cliniques et éthiques pour mettre en place des soins palliatifs, pour avoir une approche palliative, pour savoir soulager la personne, savoir l'apaiser, savoir l'accompagner, même s'ils ne sont pas dans une structure spécialisée soins palliatifs. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise en charge intégrée. Alors, on donne des repères cliniques et éthiques, et cela se fait par l'intermédiaire, évidemment, d'une formation. Et actuellement, dans les EHPAD, par exemple, les EHPAD ont l'obligation de former leur personnel à l'approche palliative, et ainsi que les MAS, donc les maisons d'accueil spécialisées pour personnes porteuses d'handicap. Alors, que s'est-il passé? Patrick l'a dit tout à l'heure, il y a eu un grand développement des soins palliatifs, on ne peut pas le nier. Et par exemple, en 2001, donc il y a 12 ans maintenant, 11 ans, il y avait 30 unités de soins palliatifs. En 2007, 88, et aujourd'hui, il y en a 105. Ce qui représente 1180 lits de soins palliatifs dans des unités. Des lits identifiés soins palliatifs dans n'importe quel service hospitalier, eh bien, il y en a aujourd'hui 4913. Il y en avait 200 en 2001. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de développement des soins palliatifs. Les équipes mobiles, ces équipes qui sont particulièrement importantes, elles sont mobiles à l'intérieur d'un hôpital pour aller conseiller les soignants qui sont en difficulté par rapport à un malade, par rapport à une famille, et qui demandent conseil à quelqu'un qui a une formation aux soins palliatifs et qui va voir avec eux comment apporter une solution dans le service où est le patient. Alors ces équipes mobiles, en 2001, il y en avait 265, et en 2010, il y en a 362. Les réseaux, 113 réseaux, on est parti de zéro, 113 réseaux. Et les associations qui s'occupent de soins palliatifs, il y en a aujourd'hui 200. Et les bénévoles d'accompagnement, 5000. Donc, il y a eu vraiment un développement des soins palliatifs, mais ce développement est-il suffisant? Alors, Patrick, vous avez déjà donné la réponse. Voyons de quoi on aurait besoin en France. Il y a 60 millions d'habitants en France, à peu près. Il y a 540 000 décès par an. Donc 94% à la suite de maladies, et sur ces maladies, il y a 30% de tumeurs et 30% de maladies cardiovasculaires. C'est à peu près pareil, cancer et maladies cardiovasculaires. Donc 60% de ces personnes qui décèdent, quel que soit le lieu où elles ont décédé, étaient susceptibles de nécessiter des soins palliatifs plus ou moins complexes. On sait que dans les unités de soins palliatifs, on va recevoir les patients qui sont en situation particulièrement complexe. C'est notre mission en unité de soins palliatifs. Donc 322 000 personnes auraient besoin de soins palliatifs. Et sur ces 322 000 personnes, 64% décèdent à l'hôpital, 23% à domicile, 11% en maison de retraite. Et nous avons été capables, finalement, d'apporter des soins palliatifs à la moitié de ces personnes qui en avaient besoin. Et la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le clame haut et fort: un patient sur deux n'a pas encore accès aux soins palliatifs. Ce qui corrobore ce que vient de dire Patrick, les soins palliatifs sont encore largement à développer. Alors les perspectives, eh bien, c'est de continuer à les développer. Et je voudrais dire d'emblée que ma grande crainte, c'est que la légalisation de l'euthanasie, on va dire, si elle a lieu un jour, soit finalement un palliatif du palliatif manquant. Comme notre système de santé n'a pas encore suffisamment développé les soins palliatifs, eh bien, il y a une autre solution, c'est de donner une issue plus rapide, et certaines associations s'appellent EXIT, une issue plus rapide à des personnes qui sont en fin de vie. Donc, alors qu'il y a des moyens, il y a des moyens, vraiment, aussi bien au niveau des thérapeutiques qu'au niveau de l'accompagnement, il y a des moyens, mais il faut les mettre en œuvre. Deuxième perspective, c'est de continuer à former les médecins et les soignants, en particulier pour le soulagement de la douleur. C'est assez honteux aujourd'hui de voir que tant de personnes souffrent encore de douleurs physiques. Bien sûr, on va dire, la douleur physique, elle est liée à tout le reste. C'est bien, on est bien clair là-dessus. Mais il y a quand même une approche de la douleur physique qui n'est pas encore suffisamment connue, une formation au niveau des thérapeutiques qui n'est pas encore suffisante, et il y a parfois des personnes qui ne sont pas soulagées aujourd'hui, alors que les pharmacies sont pleines de médicaments antalgiques. Ensuite, il y a des propositions plus précoces de soins palliatifs. Une enquête a été faite récemment et qui montre que finalement, beaucoup de malades bénéficient des soins palliatifs pour la dernière semaine de leur vie. Pourquoi ? Parce que, justement, Patrick le disait tout à l'heure, on a peur de parler des soins palliatifs, on a peur de parler de la mort, on a peur de parler de l'aggravation. Alors, on va attendre, et puis on va encore tenter un traitement. Et puis, en cancérologie, on peut quand même souvent tenter encore des traitements. Il y a encore toujours une petite ligne de recherche qui est disponible. Et vraiment, quand on n'en peut plus et que le malade ne peut plus supporter les traitements, on va dire, on va changer la priorité des thérapeutiques, on va changer de cap. Et là, ça va être maintenant le soulagement, les soins palliatifs à viser de soulagement, de confort. J'aime pas beaucoup ce mot-là pour la fin de vie, mais enfin, soulagement. Mais les personnes arrivent trop tard, et ce qu'il manque, c'est une intégration des soins palliatifs dans la filière de soins. Et l'autre jour, on avait, il y a deux jours ici, un colloque sur l'obstination déraisonnable, et un cancérologue nous disait, je ne comprends pas pourquoi les équipes de soins palliatifs ne sont pas à nos staffs de cancérologie assez tôt dans l'histoire du malade, pour que... Progressivement, au début, on n'a pas tellement besoin de l'équipe de soins palliatifs, sauf qu'on sait quand même un petit peu soulager la douleur, et que la douleur, elle peut arriver dès le début. Mais progressivement, on va donner plus d'importance à la qualité de vie, au soulagement, on va s'interroger sur ce qu'il est raisonnable de faire comme traitement, etc. Et on a besoin de la compétence des uns et des autres, de l'approche différente des uns et des autres. Donc, une meilleure intégration des soins palliatifs dans le parcours médical. Tout cela pour chercher des solutions adapté à la situation du malade. Ensuite, il faut favoriser l'accès aux soins palliatifs, et en particulier, la Société française a pris comme axe pour les années qui viennent de développer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes âgées et les soins palliatifs à domicile, parce que quand même 58% des Français meurent à l'hôpital, alors que 70% des Français aimeraient mourir chez eux. Créer davantage de filières de soins, voilà, qu'on soit plus en lien les uns avec les autres, en réseau. Et puis, il y a une information des malades, on l'a dit tout à l'heure, sur leur droit d'être soulagé, le droit d'avoir des soins palliatifs, le droit de refuser une obstination déraisonnable, et aussi informer la société de tout ce qui est possible. De tout ce qui est possible, et Patrick nous a donné des chiffres tout à l'heure. Enfin, la loi Leonetti est une loi capitale pour nous, dans la mesure où, justement, elle lutte contre l'obstination déraisonnable, qui est vraiment la principale raison de la demande d'euthanasie. Il y a des raisons idéologiques, on ne veut pas mourir, on ne veut pas continuer à vivre avec autant de limites, de défaillances, en perdant la tête, en étant dépendant, etc. Tout ça, on l'entend aussi. Mais surtout, lorsqu'il y a obstination déraisonnable, on dit, eh bien, puisqu'on en est là, pourquoi pas demander à la médecine de nous donner la mort, de provoquer la mort. Donc de vraiment faire connaître cette loi Leonetti et de faire connaître aux gens cette possibilité qu'ils ont de dire ce qu'ils souhaitent comme traitement pour leur fin de vie. Et bien sûr, de veiller à son application. Je m'arrête là pour l'instant, puisqu'il y aura discussion sur d'autres points. Merci.
Merci beaucoup à tous deux. Je vais vous poser une première question, Père Verschperen, parce que dans votre présentation, dans le temps limité qu'on vous a proposé, vous avez essayé d'être le plus complet possible, mais lorsque vous avez évoqué ces multiples cas, vous en avez cité deux, on aurait pu rallonger cette liste. Vous n'avez pas évoqué une association qui s'appelle l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a eu, vous avez évoqué une information tronquée, des cas simplifiés, on peut presque parler quelquefois de manipulation de ces cas. sans lui faire de publicité, cette association a eu malgré tout un rôle fondamental dans, la manière dont ont été médiatisés et portés à l'opinion ces cas dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, alors je ne peux pas m'engager trop sur le rôle précis et exact de cette association. Je ne voudrais pas tomber dans la diffamation. Mais c'est un fait que c'est... L'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, a été fondée en 1980, après un billet paru dans Le Monde de M. Li Landa, demandant un droit de mourir dans la dignité. Cette association a été très active pour toutes les actions en faveur de la légalisation de l'euthanasie. C'est pratiquement la seule dimension en lien avec la maladie grave qui a été développée par cette association. Bon, le soin palliatif ont été inventés avant cela, ont été connus en France avant cela. Les premiers médecins, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont agi dans la deuxième moitié des années 70, avant la création de la DMD. La DMD a joué un rôle dans l'apparition, la reconnaissance des soins palliatifs, la reconnaissance officielle, en raison d'un congrès organisé à Nice en 1984, où il y a eu un applaudissement frénétique de quelques médecins hollandais pratiquant l'euthanasie. Et cela a inquiété le gouvernement d'alors. Pour ma part, je dois avouer avoir contribué à cette inquiétude du gouvernement en ayant publié un article dans la revue Études en 1984 sur la pente de l'euthanasie, qui était abondamment commentée. On dit, mais le père Verspirène accuse, le corps médical dément. C'était ça le lendemain dans le Figaro, pour ne pas le citer. Ensuite, le démenti, il a disparu parce que ça a occasionné quand même pas mal de discussions dans les services et ça a été l'occasion de découvrir une pratique masquée d'euthanasie par les cocktails lithiques. Donc, cette montée en puissance de l'ADMD a inquiété le gouvernement. A été créé le groupe de travail sur l'aide aux mourants qui a conduit finalement à la rédaction de la circulaire Larocque officialisant en 1986 les soins palliatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas développé. Depuis lors, je pense que l'ADMD a été très active, au moins pour inciter, soutenir les journalistes des médias audiovisuels. La place de l'ADMD dans les médias, je n'en sais rien. Je ne veux pas m'avancer sur ce plan-là. Mais en tout cas, l'ADMD est soutenue par beaucoup de journalistes de l'audiovisuel qui donnent beaucoup de place aux sondages de l'ADMD et les premiers sondages étaient vraiment très, très, très orientés. Bon, tout cela, et l'ADMD organise un véritable lobbying, j'emploie le mot, parce qu'il est employé par le président même qui, pour se faire approuver par les inscrits à l'association, parle du lobbying qu'il mène et qu'il invite à mener. Je n'ai pas employé le mot de manipulation, mais je parle d'action très active et contribuant à une information totalement tronquée et finalement faussée et donc finalement fausse. Pour s'en avoir assez dit.
Oui, c'est clair. C'est clair. Merci Patrick. Alors, il a été question, mais peut-être un peu brièvement, de la loi Leonetti de 2005. Cette loi Leonetti qui serait donc éventuellement remise en cause pour aller plus loin, aller jusqu'où, on ne sait pas bien. Alors, peut-être qu'il serait utile de nous rappeler, je me tourne peut-être vers Marie-Sylvie Richard, Que prévoit véritablement la loi Leonetti? Et lorsque cette loi a été adoptée en 2005, je crois qu'on peut dire qu'elle était vraiment considérée comme une, une loi d'équilibre par tous. Alors, est-ce qu'elle est devenue si imparfaite qu'il faille 7 ans après la changer ? On évoquait tout à l'heure un petit peu la situation de la France par rapport à d'autres pays. La France, est-ce qu'elle est en retard, comme on l'entend parfois en ce domaine ? Voilà, la loi Leonetti par rapport à cela.
Alors, il me semble que la loi Leonetti est très importante sur plusieurs points. Le premier, c'est le refus de l'obstination déraisonnable, on vient d'en parler. Nous n'avons pas, nous les médecins, à nous obstiner à donner des traitements qui ne soient pas utiles, qui ne soient pas proportionnés à la situation du malade ou qui ne visent qu'au maintien artificiel de la vie de ces patients. Voilà trois points qui définissent un petit peu l'obstination déraisonnable. Et il est vraiment dit que nous devons nous efforcer d'éviter l'obstination déraisonnable. Une deuxième chose très importante, c'est que la loi Leonetti, et c'est même dans le deuxième article, insiste beaucoup sur le traitement contre la douleur, en disant aux médecins, parfois un petit peu inquiets des effets secondaires, des antalgiques, qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de manier toujours, tous les matins, et certains médecins disent encore aujourd'hui, et quelqu'un me l'a rapporté il y a quelques jours, vous savez, le médecin n'a rien donné à ma mère parce qu'elle pesait 35 kilos, elle était très faible et la morphine l'aurait fait mourir. Bon. Donc elle est morte dans des douleurs assez atroces parce que la morphine l'aurait fait mourir. Donc c'est toujours quand même un peu difficile d'entendre ça alors qu'aujourd'hui on est un tout petit peu plus compétent dans l'utilisation de ces médicaments. Donc, Leonetti, qui est un médecin, a voulu dire à ses confrères, ne soyez pas frileux, osez traiter la douleur en employant les médicaments nécessaires et acceptez qu'il y ait un risque antalgique. On accepte qu'il y ait un risque opératoire, on accepte qu'il y ait un risque à la chimiothérapie, on accepte qu'il y ait un risque à la radiothérapie, etc. Mais pour le traitement de la douleur, on est frileux. On n'accepte pas de risque. Alors, il ne s'agit pas de traiter les malades à la louche de morphine. Hein. On nous demande quand même d'avoir une certaine compétence et d'essayer de faire au mieux avec les plus petites doses efficaces, mais de ne pas hésiter quand même à traiter quelqu'un sous prétexte qu'on va peut-être le faire mourir. Donc, la loi Leonetti mais ne fait que répéter ce qu'a dit Pidouze il y a bien longtemps. Il est tout à fait légitime de traiter un malade avec des substances qui peuvent peut-être abréger de quelques heures sa vie. La perspective, l'objectif n'est pas d'abréger la vie, d'accélérer la mort, de provoquer la mort. Elle est de soulager le patient. Mais il y a aussi des effets secondaires qui ne sont pas toujours mesurables, d'autant que ces patients ont rarement un seul médicament. Donc les effets, les interactions médicamenteuses ne sont pas toujours toutes calculables. Donc oser traiter la douleur, même s'il y a le risque d'abréger la vie. Alors certains se sont réjouis que cette petite phrase existe dans la loi en disant eh bien voilà, maintenant on peut y aller, quoi. On peut prendre des grosses doses. On ne nous a pas dit d'être. Inintelligent. Troisième aspect, c'est le respect de la volonté du patient en différentes situations. Vraiment, déjà dans la loi de 2002 sur les droits des patients, il était dit que le malade informé, s'il le souhaite, va prendre avec le soignant et en fonction des informations qu'il aura reçues, les décisions qui le concernent. Alors vous allez me dire, on en est encore loin, certes. Mais enfin, de plus en plus, des patients participent aux décisions, à la réflexion concernant leur traitement. Et là, il est dit que si un patient refuse tel traitement, préfère s'abstenir ou demande qu'on arrête ou qu'on limite un traitement, eh bien nous avons, après avoir vérifié pourquoi il le demande, à quel stade de sa maladie il est, nous aurons en fin de réflexion à nous incliner devant la volonté du patient. Et puis, de la loi de 2002, et on pourra peut-être y revenir, avait... promu la personne de confiance. Et là, dans la loi Leonetti, il est dit non seulement il est important de désigner une personne de confiance qui va être notre porte-parole si nous ne pouvons plus dire ce que nous voulons à tel moment parce que nos capacités, nos facultés ne le permettront plus, donc notre porte-parole, eh bien, il y a aussi la possibilité d'écrire des directives anticipées, on y reviendra, qui sont finalement écrire ce que l'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas comme traitement pour la fin de notre vie. Et puis, lorsqu'il s'agit de chercher une médecine raisonnable, il est recommandé que les médecins ne décident pas tout seuls de limiter, de s'abstenir, d'arrêter ou même de poursuivre tel traitement, et qu'il y a une mesure, une réflexion à faire en équipe, une réflexion collégiale, avant de prendre des grandes décisions, en particulier de limitation et d'arrêt des traitements. Il y a tout un processus pour prendre ces décisions, pour réfléchir en vue des décisions. Et enfin, la loi Netty, c'est un refrain. Tous les trois numéros de la loi, il est dit que, de toute façon, il est nécessaire d'apporter le soulagement au patient et de lui prodiguer les soins palliatifs. Voilà. Donc, ce sont des principaux points. Je ne sais pas, Patrick, si vous voulez insister sur l'un ou l'autre.
Non, écoutez, j'avais prévu également la question, j'avais noté ce qu'il y avait à dire, et j'écoutais au fur et à mesure, je crois. Je crois que ça va. Pour le soulagement de la douleur, l'expression employée par la loi Leonetti, c'est s'il n'y a pas d'autre moyen que le médecin emploie pour apaiser des souffrances, qu'il emploie des médicaments qui aient comme effet secondaire d'abréger la vie. Donc la notion d'effet secondaire, et se rapportant au plan moral, au plan philosophique, au principe du double effet. C'est-à-dire qu'on recherche à soulager, mais on accepte à son corps défendant l'effet éventuel d'abréger la vie. Et cette notion de double effet est quand même commentée par beaucoup de médecins et par M. Leonetti lui-même.
Alors, Père Verspieren, peut-être vous pourriez nous indiquer, enfin, avoir un élément de réponse sur la deuxième partie de la question de François. Qu'on avait évoqué tout à l'heure, est-ce qu'avec ce dispositif législatif qui ne date que de 2005, la France est-elle en retard par rapport aux autres pays d'Europe ?
J'ai dit qu'il y avait trois pays qui avaient légalisé l'euthanasie, pour ne pas parler de la Suisse qui, depuis longtemps, avait un article, l'article 115 de son code pénal, qui disait que l'aide au suicide n'est pas pénalisée si cette aide au suicide n'est pas apportée par des motifs égoïstes, sic, c'est marqué comme ça dans le code pénal suisse. Ça a été utilisé pour pratiquer l'euthanasie, alors que ce n'était pas fait du tout pour cela. Bon. Sinon, des études ont été faites, et notamment était publié dans la revue Études du mois d'avril, La fin de vie en Europe, par M. Yves-Marie Doublet, qui montre que la plupart des grands pays européens, en tout cas d'Europe occidentale, ne s'orientent pas à l'heure actuelle vers la légalisation de l'euthanasie, mais qui essayent de réfléchir dans d'autres lignes. Et notamment, il y a tout un débat en Europe sur ces directives anticipées. Et c'est vrai que certains pays tendent à établir, à reconnaître des directives qui soient opposables aux médecins. Et je crois que c'est une question à aborder en France. Alors, est-ce qu'il faut que ça s'impose absolument aux médecins ? Samedi, j'ai entendu des réactions un petit peu d'effroi du réanimateur, disant, écoutez, mon fils, je ne sais pas quel âge il a, son fils ou un de ses fils, si jamais il vient en réanimation, s'il est effrayé, c'est dire, en aucun cas, je ne veux passer en réanimation. Mais s'il a tel traumatisme cérébral, on sait très bien qu'on peut opérer, 3 jours de réa, et on s'en sort le plus souvent sans séquelles. S'il arrive dans mon service avec ça, pas de réanimation, est-ce que je vais le laisser mourir ? Alors, je crois qu'on ne peut pas avoir ainsi une telle obligation pour le médecin de s'incliner ce qui est marqué dans les directives anticipées si on ne réfléchit pas davantage à la manière de rédiger. Et ce qui est prévu dans certains pays, que ces directives soient rédigées avec un médecin, et je pense quand on est pris dans un processus de maladie, quand on est pris dans une maladie qui va produire une paralysie progressive, on sait qu'on aura des difficultés de respiration à certains moments, on peut réfléchir au fait d'accepter une trachéotomie ou pas, d'accepter ceci ou cela, alors que l'on sait qu'on est menacé de ceci ou de cela. Ce sont des décisions relativement en connaissance de cause. Et à ce moment-là, je pense que ça pourrait devenir obligatoire pour le médecin. Mais que si ça s'est rendu obligatoire pour le médecin, qu'on réfléchisse à la façon de rédiger et les circonstances dans lesquelles serait valeur obligatoire. Alors je crois que c'est une question à aborder. J'ai cherché d'autres améliorations de la loi. Alors il y a certains points de la loi avec lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on ne va pas entrer dans tous ces débats-là qui sont comme des débats assez limités. Dans l'ensemble, je ne vois pas d'amélioration à apporter à la loi Leonetti. Et M. Sicard, lui-même, à certains moments, le dit lui aussi.
Docteur Richard, je voudrais également vous poser une question après votre présentation sur les soins palliatifs. Est-ce que dans votre service, où vous recevez beaucoup de malades en fin de vie, les demandes d'euthanasie sont fréquentes et comment y répondez-vous? On dit souvent que la demande d'euthanasie, c'est une demande de bien portant. Est-ce que vous confirmez cette idée-là?
Quand on est bien portant, on peut effectivement dire « je préférerais mourir après une euthanasie, comme ça, ça m'éviterait d'être malade, d'avoir beaucoup de complications, de souffrir, d'être sujet à une obstination, un acharnement thérapeutique, etc. » On envisage beaucoup de choses et pour éviter ces choses imaginaires qui font peur, parce qu'on a peut-être constaté tout cela chez des proches, on préfère dire « eh bien, moi, je demanderais l'euthanasie ». Alors, en situation, les demandes d'euthanasie sont rares de la part des malades. Il faut quand même bien le dire. Elles sont plus fréquentes de la part des proches et même des soignants. Mais de la part des malades, elles sont rares. Alors, on va me dire, c'est contraire à tout ce qu'on nous dit dans la presse, mais là aussi, il faudrait reprendre tous les sondages et surtout essayer de voir ce qui est demandé par le malade. Certains patients disent, je voudrais mourir, je n'en finis pas de mourir. Pourquoi est-ce que le ciel est fermé? Pourquoi bon Dieu vient pas me chercher, disent les personnes âgées. Voilà, je voudrais mourir. Mais voilà, je voudrais mourir, elle ne vous demande pas d'aller chercher la seringue et de leur faire l'injection létale. Je voudrais mourir. Après, d'autres disent, oh, laissez-moi mourir. C'est-à-dire, arrêtez de m'embêter avec tel ou tel traitement. Ce laissez-moi mourir, d'ailleurs, est assez particulier parce que telle personne peut dire « je veux plus rien » et puis potentiellement il y a une petite complication qu'elle n'avait pas prévue. Et là, si le médecin n'arrive pas dans les secondes qui arrivent, qui suivent, c'est dramatique parce qu'elle va mourir. Et idem pour les proches. Il faut être raisonnable, ne plus s'exciter, ne pas engager de nouveaux traitements. Et puis vient une complication et là on dit tout d'un coup « mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais quand même, il n'y a plus rien à faire, mais avec tout ce que la médecine peut faire. » Donc, je voudrais mourir, laissez-moi mourir. Bon, ça, c'est très fréquent. Bon, mais on en parle. Et puis, voilà, il faut écouter ce que vit la personne. Et c'est souvent l'expression de cette grande lassitude, de beaucoup d'angoisse, d'une souffrance profonde. Mais qui, dès qu'elle s'exprime, dès qu'elle est écoutée surtout, va déjà mieux. Quand on partage un fardeau, il est déjà moins lourd. Et puis, il y a quelques personnes, effectivement, qui demandent à mourir et qui disent, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Quelque chose. On peut toujours faire quelque chose, quand même. Quelque chose d'autre que de provoquer la mort, quand même. Donc, faire quelque chose. Alors, pourquoi ces personnes demandent, parfois très explicitement, mais faites-moi une piqûre? C'est parce que les douleurs ne sont pas contrôlées. C'est parce que la dépendance est insupportable. C'est parce qu'il y a une souffrance psychologique majeure, une très grande angoisse. C'est parce qu'il y a un abandon, un grand isolement. C'est parce qu'il y a tout un contexte d'évolution de la maladie qui fait peur. Voilà, quelqu'un qui sait qu'il risque d'étouffer, d'avoir une hémorragie, vous dit tout d'un coup, lorsqu'il est très très faible, mais pourquoi vous ne me faites pas mourir maintenant avant que ça arrive, avant que cette complication n'arrive? Donc là, il y a des raisons vraiment sur lesquelles il faut travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de la personne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la soulager? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser cette souffrance, pour apaiser cette angoisse? Et comme je vous l'ai dit, c'est bien la souffrance globale de la personne dont il est question. Et là, on a quand même des ressources, même si ça n'est pas un résultat à 100%, évidemment. Et puis, il y a des personnes, alors ça, c'est les cas les plus compliqués, qui sont atteintes d'une maladie grave, neurologique, et c'est toujours ce qu'on nous présente à la télévision, en grand écran, en face à face, grand angle, tout, pour nous dire cette personne ne peut pas, parce qu'elle est paralysée des quatre membres, ne peut pas se suicider elle-même, donc elle est soumise à votre bon désir, messieurs ou mesdames les médecins, là. Elle vous réclame la mort et vous ne lui donnez pas. Voilà. Donc est-ce que vous ne pourriez pas alléger la souffrance de ces personnes qui ne peuvent pas trouver pour eux-mêmes la solution et provoquer leur mort? Ça, ce sont les situations les plus difficiles, mais de loin, tous les malades atteints de maladies neurologiques ne demandent pas la mort. Certains cas, c'est vrai. Alors, est-ce que, c'est la grosse question, est-ce que pour certains cas, il faut faire pour autant une loi qui va être pour la population tout entière? C'est un petit peu délicat. Un petit peu délicat. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut aménager les choses pour ces cas particuliers? Il y a du travail à faire, du travail à faire, pour que ces personnes ne soient pas dans une situation insupportable. Mais après, il y a aussi une position philosophique différente. Certains nous disent « je n'ai plus rien d'un homme, ma vie n'est plus humaine et je ne suis plus un homme dans cet état-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne voulez pas tuer un homme, mais je ne suis plus un homme. » Donc là, on a à discuter et c'est surtout dans l'échange et dans le soulagement. C'est pas « je vais bientôt vous soulager », non, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et ça va de petites choses en petites choses. Et quand même, le plus souvent, les demandes d'euthanasie sont levées en soins palliatifs. Il reste ces cas très particuliers, c'est vrai.
Merci Marie-Sylvie pour ces précisions, je crois, très importantes. Je crois, Patrick, que tu voulais préciser quelques données, quelques chiffres de l'INED notamment.
Eh bien, paru hier soir un résumé d'une enquête faite par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, intitulé « Les décisions médicales en fin de vie en France ». Bon, ce n'est qu'une présentation provisoire et résumée. Le rapport paraîtra dans quelques semaines ou quelques mois, mais je lis ce passage. Dans cette étude, selon les médecins enquêtés, il y a quand même beaucoup de médecins ont été interrogés, du moins interrogés par Internet. 16% des personnes décédées ont exprimé à un moment ou à un autre le souhait d'accélérer leur mort. Ça confirme ce que disait Marie-Sylvie, docteur Marie-Sylvie Richard. Cette question vient et les malades en parlent. Donc 16% ont exprimé à un moment ou à un autre. Lorsqu'on va se précipiter sur ce moment-là, alors que les demandes explicites d'euthanasie restent extrêmement rares en France. Bon. Faut-il dire extrêmement rares, parce que le texte continue, elle concerne 1,8% des décès, donc des demandes explicites, soit 44 personnes sur un échantillon d'environ 2200 personnes ayant fait l'objet d'une décision médicale en fin de vie. Les pratiques réelles d'euthanasie sont encore plus rares. Et puis une autre enquête, donc on commence à mener des enquêtes, et cette enquête de l'INED, alors là on prend une méthode des Pays-Bas, et je pense que ça c'est un progrès, c'est-à-dire qu'on garantit l'anonymat des réponses, et on dit « vous ne serez pas jugé au plan scientifique ni au plan légal, dites-nous ce qui s'est passé ». Et on fera entrer ça dans les statistiques, mais votre nom, on ne le livrera jamais. Et ça, je pense que ça permet ça de parvenir justement à une appréciation de ce qui se passe, qui est quand même un élément pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, une autre enquête a été publiée, je pense, en avril 2012 dans la revue Médecine Palliative. Elle confirme également ce que disait Marie-Sylvie Richard, c'est que les demandes de mort qui sont maintenues, en fait, ne viennent pas d'un syndrome douloureux incontrôlé. Quand même, les médecins commencent, fussent à la louche, mais commencent à savoir manier les antalgiques. Alors peut-être que maintenant, on emploie de trop fortes doses par manque de formation, mais les médecins, comme dans l'ensemble, je pense, savent manier la médecine, mais des malades demandent à ce qu'on provoque leur mort, non pas en rapport avec un symptôme douloureux, mais en raison de l'image dégradée qu'a le patient de sa situation, qu'il s'agisse d'une perte de sa dignité, je ne fais que lire le texte, on pourra revenir sur le sens de l'expression, d'une crainte de perdre ses facultés intellectuelles ou d'imposer une image intolérable de soi, ou d'une perception de vie inutile, indigne, ou encore d'un sentiment de culpabilité, oui, qui est beaucoup plus en jeu des souffrances qu'on appelle d'habitude des souffrances morales, et beaucoup en rapport avec l'entourage, et notamment le fait de se sentir une charge pour l'entourage.
Merci Patrick, on aura l'occasion peut-être de revenir sur l'un ou l'autre point, notamment sur la notion de dignité qui est quand même tout à fait centrale dans ce débat. Je crois qu'il est temps de continuer le débat avec tous et donc de pouvoir donner la parole à ceux qui le souhaitent, soit pour une question, soit pour une conviction, une réaction. Nous allons faire comme nous en avons l'habitude, c'est-à-dire de recueillir deux ou trois interventions avant de redonner la parole à nos invités. Voilà, il y a un micro qui va se balader. N'hésitez pas, voilà, au milieu, un peu sur ma droite. Voilà, si vous pouvez faire passer le micro à monsieur. Levez bien la main quand... Voilà.
Merci. Vous avez parlé de juridique, éthique, médical. Le docteur Richard a un peu abordé le côté financier. Alors, je pose juste un problème. Moi, je suis MJPM. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est je suis gérant de tutelle. La direction des affaires sociales des différents départements m'ont dit qu'ils n'ont plus un rond pour payer les MJPM dans le cas où les majeurs ne peuvent pas le payer. Notre pays est en faillite. Il y a le chômage, il y a le logement, il y a la précarité. Bref, il y a tout. Quelle est la place des personnes âgées? Quelle place faut-il leur donner? Il y a un problème de moyens. Madame Richard, vous en avez parlé un petit peu. Vous avez laissé entendre qu'il y a un Français sur deux qui ne mérite, qui n'a pas les soins palliatifs. Il n'y a pas un problème d'éthique, de choix.
Merci. On va refaire passer le micro pour le au début de la rangée.
Oui, on doit remercier Madame Richard de nous avoir montré ce qu'étaient les soins palliatifs dans leur intentionnalité, dans leur modalité. Je crois que ça, c'est tout à fait important. Mais la question, me semble-t-il, actuellement, va bien au-delà. C'est, et pourquoi le thème de l'euthanasie est un thème qui est un thème et un débat de notre société? Et il me semble que le problème des représentations, des besoins et d'attentes vis-à-vis de la mort, hein, sont au cœur du problème. Avec un double aspect, le problème de la représentation de la mort de soi et de la mort de l'autre. Et tout à l'heure, le père Vespérenne l'a bien rappelé, quand on donne l'idée d'une image dégradée de soi-même, c'est de la mort de soi dont on parle. Tandis que quand on parle de la mort des proches et la mort d'autrui avant la maladie ou au-delà de la maladie, on parle de tout à fait autre chose. Donc on a un débat entre la mort de soi et la mort de l'autre. J'aimerais avoir votre avis là-dessus comme fondement du débat actuel.
Merci beaucoup. Et on va prendre une troisième. On remonte. Oui, monte.
Oui, vous avez parlé de la notion de dignité. On n'a pas du tout évoqué le problème de la liberté. Parce que je pense quand même que le cœur du débat, c'est la liberté de l'individu face à sa mort. Et lorsque tout à l'heure on évoquait le droit de refus d'un traitement, pourquoi n'a-t-on pas le droit aussi de demander un traitement qui puisse accélérer éventuellement la fin de vie?
Voilà, on peut peut-être repartir de ces deux dernières questions. On reviendra ensuite à la question des moyens qui est un petit peu différent, même évidemment si tout est lié. La question de à la fois dignité, liberté et la place du débat aujourd'hui, ce thème de l'euthanasie, pourquoi est-il finalement si actuel, si présent dans notre société? mort de soi, mort de l'autre. Je ne sais pas si Marie-Sylvie ou Patrick, vous voulez engager la réflexion. Je sais que vous vous compléterez. N'hésitez pas, hein. Sentez-vous libre. Marie-Sylvie, merci.
La première question sur le choix, les personnes n'auront pas le choix, entre les personnes âgées n'auront pas le choix. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le choix du lieu où on va finir sa vie, ça c'est clair. Maintenant, le prix des soins palliatifs, quand même, par rapport à bien d'autres soins, il n'est quand même pas aussi onéreux qu'on peut le penser. Il est onéreux en termes de personnel disponible, mais en tout cas les médicaments qu'on emploie ne sont pas chers, et notre seule dépense va être du personnel. Mais j'ai envie de dire, ce personnel, il n'est quand même pas forcément nécessaire que pour les gens qui meurent. Il y a une réelle question qui est l'amélioration de du soin que l'on peut apporter aux personnes âgées, entre autres dans les établissements, pour que le personnel soit un tout petit peu plus nombreux. Bon, c'est vrai que là, il y a une question économique sévère, grave, mais qui est une question de priorité, quand même, de priorité. On n'a pas tout à fait attendu aujourd'hui pour savoir que le nombre de personnes âgées nécessitant d'être en institution allait aussi fort augmenter. Ça pouvait quand même être un tout petit peu anticipé. Voilà. Alors pourquoi ça n'a pas été anticipé? C'est du même ordre que tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas informé la société? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la mort? Pourquoi on ne parle pas de soins palliatifs, etc. Donc là, il y a quand même des questions de priorité. Alors, notre pays est à la faillite. Oui, enfin, il y a pire. Hein. Il y a vraiment pire. Avec Patrick Verspiren, on revient de Grèce. Voilà, c'était un peu plus compliqué encore. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui seraient à inventer. Les soins palliatifs ne sont quand même pas si dispendieux que ça, disent les Canadiens. Hein. Il y a quand même des choses. Une approche palliative ne demande pas des moyens extraordinaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dépense sans doute beaucoup plus d'argent à faire des choses qui sont pas tout à fait utiles en santé. Voilà. Alors après, au niveau de la liberté, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que la dignité, c'est la question de la liberté qui se pose. Et le dernier livre de Romero, le président de la DMD, eh bien, sur la liberté, voleur de liberté, je crois. Voilà. Bon. Alors, les patients qui demandent la mort et qui essaient de tenir dans cette demande, disent bien, c'est ma liberté, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma mort. Voilà. Bon, ok. Mais pourtant, je vous demande à vous, donc une deuxième liberté, on va voir donc un conflit de liberté, une réflexion, et c'est là quand même qu'il y a un dialogue possible entre celui qui demande à l'autre de lui procurer la mort et celui qui va répondre ou pas à cette demande. Et quand on dit liberté de demander un traitement, même s'il fait mourir, un traitement qui fait mourir, pour moi, ce n'est pas un traitement. Enfin, ça peut être accidentel, mais je ne vais pas faire un traitement en vue de provoquer la mort. Pour moi, l'euthanasie, la provocation de la mort, ne fait pas partie du soin, alors que, effectivement, en Belgique, on enseigne dans les IFSI que le soin ultime sera possiblement, enfin, peut-être, de provoquer la mort de la personne. Aujourd'hui, en France, en tout cas, un soin qui donnerait la mort, qui provoquerait la mort, pour moi, n'est pas un soin, sauf si, effectivement, c'est accidentel, mais ça n'est pas voulu de provoquer la mort. Voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant.
Patrick ?
Je rebondirai volontiers sur cette question de la liberté. Ou bien on se place dans une perspective purement individuelle. Moi, je demande ceci, au nom de quoi autrui ne répondrait pas à ma demande. Donc, il n'y aurait que des individus. Mais cet individu même, est-il totalement libre? Je fais allusion à l'enquête, à la deuxième enquête dont j'ai parlé, et qui montre que beaucoup de demandes de mort sont liées au fait qu'on a perdu un peu le sens de sa vie, ou se sont devenues une charge. Mais si toutes les personnes qui sont dans certaines situations qui seront définies par la loi, si toutes ces personnes peuvent demander la mort, si la loi leur reconnaît un accès à l'euthanasie, celles qui doutent du sens de leur vie? Est-ce que celles qui se pensent une charge pour autrui, est-ce qu'elles auront à porter le poids de la responsabilité, peut-être de la culpabilité de vivre encore? Si elles vivent, elles imposent à ce moment-là leur vie à autrui. On revient à la question de la mort de soi et de la mort d'autrui. Et donc, est-ce qu'on ne fait pas peser un poids assez considérable, non pas sur les personnes en bonne santé, mais sur toutes les personnes qui seraient dans les conditions prévues par la loi, et ce seraient des conditions de grande vulnérabilité? Je pense donc que la question de la légalisation de l'euthanasie est une question sociale. Ce n'est pas prendre ça comme un droit individuel, mais comme une question sociale. Quelle est notre attitude, quelle sera l'attitude de la société vers toutes ces personnes vis-à-vis desquelles la société pose la question du sens de leur vie? Est-ce qu'on va les pousser, ces personnes, vers la mort?
On va peut-être prendre une nouvelle série de questions, devant également.
Bonsoir. Je voulais vous dire quelque chose à propos de la loi Leonetti. Lorsque la personne qui peut en bénéficier n'a plus ses facultés, ma mère avait la maladie d'Alzheimer, et pour qu'elle ne soit pas en acharnement thérapeutique, j'ai dû signer des décharges pour qu'on lui pratique pas des trachéotomies, des choses comme ça, parce qu'elle n'était pas en état de le dire et d'éviter l'acharnement. Je voulais que il faut que quelqu'un puisse le dire, sinon automatiquement l'acharnement thérapeutique est appliqué quand même.
Attendez, le micro va arriver.
Comment est-ce que vous définissez l'obstination déraisonnable? À partir de quel moment elle est? Est-ce que c'est l'entourage du malade qui...
Voilà, parlez bien dans le micro. Bien, voilà.
Comment est-ce que vous définissez l'obstination déraisonnable? À partir de quel moment elle est définie comme ça? Et par qui? Est-ce que c'est l'entourage? Parce que très souvent, le malade est dans un tel état qu'il ne peut que subir. Il ne peut pas dire stop. Qui est-ce qu'il a défini?
Est-ce qu'il y a une troisième?
Est-ce que la loi Leonetti est connue des médecins?
Ça, on est,
est-ce qu'elle
on
est répandue?
Un peu répandue, mais on y reviendra. Et une troisième question, voilà, on va prendre madame.
Bonsoir. Je voulais savoir si le thème de la mort était maintenant dans les études de médecine, parce que jusqu'à très récemment, on n'en parlait pas du tout. Et vous avez dit très justement que souvent les patients arrivent trop tard en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'ils restent très longtemps en fait en soins non palliatifs. Et comme il y a encore une grosse rupture entre les soins palliatifs d'un côté et le reste de la médecine, je pense qu'il y a vraiment une question de fond en fait, c'est qu'on ne parle pas de la mort en médecine. En 10 années de médecine, je n'ai jamais entendu parler de la mort. Et je voulais savoir si ça arrivait dans le programme de médecine et s'il y avait sinon une action pour essayer de développer ça. Merci.
Merci. Les deux premières questions, docteur Richard, se recoupent assez largement. Est-ce que d'abord, obstination déraisonnable et acharnement thérapeutique, c'est deux manières de dire la même chose? Et puis donc, à quel moment, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'un l'équipe médicale décide qu'on est dans l'obstination déraisonnable? Et est-ce que cet acharnement est encore aussi répandu que le soulignait madame?
L'acharnement thérapeutique, je ne sais pas. À entendre des malades et entendre des familles, on entend souvent. On a été trop loin. Voilà. On le fait souffrir pour rien. Bon, c'est souvent après coup, d'ailleurs, qu'on le dit. Parce qu'au moment où on se bagarre, on a envie de prendre tous les moyens. Mais après, on se dit, on a été trop loin. Donc, l'obstination déraisonnable remplace le terme acharnement thérapeutique dans le code de déontologie depuis 1995. Et les trois arguments, c'est un traitement qui devient inutile, ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, qui est disproportionné à l'état du patient, à la situation du patient. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a un cancer du poumon, j'en parlais tout à l'heure avec un malade, qui a vraiment déjà un encombrement important et qui me dit « Et alors, si je fais une détresse respiratoire, est-ce que je vais en réa ?» On a pu en parler ensemble. Et on a pensé que la réanimation dans l'état où il était avec deux poumons truffés de métastases, c'était vraiment déraisonnable. C'était pas proportionné à sa situation. Donc évidemment, la question, c'est qu'est-ce que vous avez à m'offrir autrement, hein. Donc là, on a parlé des médicaments, des moyens médicamenteux, thérapeutiques médicamenteux, qui pourraient lui permettre de ne pas étouffer. Et puis, la troisième chose, c'est un traitement qui ne vise, alors c'est plus difficile comme argument, mais qui ne vise que le maintien artificiel de la vie. Alors ça, c'est plus rare, c'est plus en réanimation qu'on a des choses comme ça, mais ça existe aussi. Alors qui se rend compte de cette obstination déraisonnable? Parfois le malade lui-même, hein. De plus en plus, des malades nous disent, mais vraiment, vous vous acharnez avec moi, vous acharnez, ou les médecins sont acharnés. Bon. Parfois ce sont les familles qui disent, mais jusqu'où on va aller? Et parfois, quand même, assez souvent, heureusement, ce sont les soignants, médecins et autres soignants, qui régulièrement s'interrogent devant la situation du malade en disant, est-ce qu'il est légitime de poursuivre ce traitement-là? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'il a comme effet secondaire ennuyeux? Et on essaie de faire de peser les bénéfices et les inconvénients des traitements qui sont déjà prescrits, est-ce qu'il faut les poursuivre, pas les poursuivre, de ce qu'on pourrait peut-être introduire, ou, voilà, c'est, tous les jours, quand même, on revoit la situation des patients en disant, que fait-on? Alors, quand on se pose une question sur, je sais pas, encore récemment, quelqu'un arrivé dans un état assez, extrêmement fatigué, bon, et je vois dans son dossier qu'il a une grosse anémie, qui a été transfusée, mais que les transfusions ne les supportent pas très bien, etc. Donc, la première question est de se dire, est-ce que ce patient, est-ce qu'il faut le transfuser? C'est pas rien, quand même, une transfusion à répétition. Bon, donc, on va en parler avec le patient. Comment s'est passée la transfusion, etc. Mais on va en parler après avoir déjà réfléchi. Est-ce que c'est raisonnable de lui proposer une transfusion? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'il a déjà fait des complications? S'il a déjà fait des complications, on ne va pas lui redire, écoutez, voilà, vous avez le choix, mais ça, vous avez eu des complications, ça, il faudrait mieux pas le faire. Voilà, on va lui proposer une situation en lui disant, voilà, on a réfléchi, voilà ce qui est possible. Maintenant, vous, comment vous vous situez? Bon. Donc là, ce sont les patients, effectivement, qui peuvent dire. Mais on peut dire longtemps, même quand on est atteint d'Alzheimer, il est très possible que des moments de lucidité, quelqu'un vous dise « Non, je ne veux pas d'une sonde pour manger, non, je ne veux pas faire un examen, etc. » Alors après, il y a le patient qui n'est pas en mesure de participer à ce dialogue. Donc c'est avec les proches que la discussion va se faire. Et en particulier avec la personne de confiance, si elle a été désignée par le malade, et qui est le porte-parole du malade. Mais tout ça nécessite qu'on parle avec le malade de sa maladie, de l'évolution, et qu'on ose parler aussi de cette échéance qu'est la mort. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, Patrick Verspirin le disait tout à l'heure, il y a une peur de la mort et une peur de parler de la mort, ça c'est vrai, et c'est vraiment une question. En médecine, il y a un module maintenant, douleur et soins palliatifs, où on parle un peu de la mort, un peu. Voilà. Mais comme vous, moi j'ai appris les signes de la mort, mais c'est tout ce que j'ai appris, et puis tout ce qui était médecine légale. Mais l'accompagnement de celui qui meurt, ça ne m'a pas étouffé dans mes études de médecine. Bon, maintenant, il y a à peu près 6 heures ou 12 heures sur 6 ans d'études. C'est un tout petit mieux, mais c'est peut-être encore à améliorer.
Vous voulez intervenir sur ces questions?
Une seule chose, et témoignant sans doute que la législation n'est pas connue toujours par les médecins, j'ai entendu votre réaction pour dire, mais... Pour prendre la décision de renoncer à tel traitement jugé pas proportionné, pas adéquat, le médecin ferait signer une décharge aux proches. Ça, c'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans la loi. Il est bien prévu que quand le malade n'est pas en état d'exprimer sa volonté, c'est le médecin qui décide. Après consultation des proches, le cas échéant de la personne de confiance, on les consulte, on l'écoute, le médecin écoute. Et le médecin se concerte avec les infirmières et les autres soignants, et le médecin prend la décision, c'est-à-dire endosse la responsabilité de la décision. Faire signer des proches, ça, ce n'est pas une pratique recommandable, à mon avis. Parler, oui, mais faire signer, non. C'est un peu une décharge de responsabilité du médecin, je trouve.
Docteur Richard, sur cette question de l'acharnement, j'ai un point très précis à soulever, parce que c'est des témoignages qui nous reviennent souvent à nous autres journalistes. Lorsqu'une personne se trouve placée sous respirateur artificiel, alimentée par une sonde, beaucoup de gens nous disent que c'est une forme d'acharnement thérapeutique. Est-ce que, comme médecin, vous considérez également cela, étant entendu que vous avez commencé d'y répondre en disant tout à l'heure qu'il fallait considérer le malade comme une personne et non comme une maladie. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens qui disent, voilà, là, il n'y a plus d'espoir, et vous disiez tout à l'heure, l'expression vulgaire et courante, c'est le malade est devenu une sorte de légume. Qu'est-ce qu'on répond à ces cas ?
Alors, à quoi sert cette machine ? Est-ce qu'elle est encore au bénéfice du malade, ou est-ce qu'elle est une extrême contrainte ? Un patient qui a une maladie neurologique, qui a fait une détresse respiratoire, va peut-être tout à fait consentir à avoir une assistance ventilatoire, une assistance respiratoire, à un moment donné. Et puis, ce qui nous arrive assez souvent, au bout de 5 ans, 6 ans, ce patient est devenu fatigué, ne peut plus supporter cette machine qui lui fait violence et qui le fait vivre, et il dit, voilà, moi, tout mon corps est affaibli, paralysé, et je vis parce que l'air m'est impulsé régulièrement, et je n'ai pas le droit de dire non, finalement, si ce n'est qu'en débranchant la machine. Donc, il y a toujours à analyser où on en est, où en est-on de l'évolution de la maladie. Où en est le malade. Une jeune femme, à la Garnier, on accueille souvent des patients atteints de maladies neurologiques qui sont sous respirateur, bon, et, ou qui ne sont pas encore sous respirateur. Je me souviens d'une personne qui me disait, moi, si j'étouffe, vous avez bien le numéro du SAMU, je veux le voir affiché dans ma chambre, puisqu'on n'a pas de réanimation chez nous. Donc je lui dis, votre souhait, c'est bien d'être emmené aux urgences et aller en réanimation. Oui, je le veux. Bon, on discute des raisons. Elle avait deux petites filles de 8 ans et 10 ans. Elle était elle-même réanimatrice. Voilà. Et elle nous a dit, moi, 15 jours de plus de vie, c'est pour mes filles. Voilà. Donc, il faudra vraiment que la machine tombe en panne pour que j'accepte de ne plus avoir de machine. Peut-être qu'un jour, je m'en fatiguerai. Bon. Cette personne est venue faire plusieurs séjours de répit à Jeanne Garnier. Et puis, est arrivé un jour où il y a eu effectivement une détresse respiratoire. On lui a redemandé s'il était toujours d'accord. Elle nous a montré d'ailleurs le numéro du SAMU. On n'avait pas besoin de beaucoup discuter sur ce qu'elle voulait. À côté, dans la chambre d'à côté, vous pouvez avoir un patient qui est dans la même situation, qui n'a pas ces mêmes raisons de vivre, et qui vous dit, moi, non, vraiment, j'ai assez donné avec ma maladie, là, je peux plus, quoi. Me mettre un respirateur, ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc c'est une question quand même à analyser. On n'est pas obligé de finir sa vie avec un respirateur. Mais ça peut avoir du sens et ça peut nettement améliorer l'état des malades. Mais c'est à voir avec chacun en fonction de son histoire. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'approche globale de la personne et pas seulement la maladie, telle page de mon bouquin de médecine, voilà, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, etc.
Merci. Nous allons reprendre deux dernières interventions ou deux questions. Voilà, au milieu, non, Antoine, voilà, au milieu, lève bien la main, Philippe, voilà.
Merci beaucoup tout d'abord pour la clarté de vos exposés et la précision clinique aussi des éléments que vous avez apportés. Je voulais juste soumettre à votre réflexion et à vos réponses potentielles l'exposé des motifs du texte de loi, de la proposition de loi des sénateurs qui est à l'origine du texte qui va être prochainement soumis au gouvernement, avec les aspects juste humains, juridiques, et déontologique qu'il soulève. Juste ces trois points que je voudrais juste aborder. D'abord, père, effectivement, vous l'avez vu peut-être dans l'exposé des motifs, le premier paragraphe de cet exposé des motifs revient sur l'affaire Vincent Imbert et l'émotion qu'elle a suscitée. Donc on voit que le premier exposé des motifs d'un texte de loi aussi grave que celui-ci, c'est l'émotion. Donc j'aurais voulu avoir votre réflexion sur ce sujet déjà. Ce chapitre-là se conclut par, je cite, « Nous devons répondre à la multiplicité des besoins des patients ». Le second point d'ordre juridique maintenant, c'est que dans cette proposition et cet exposé des motifs, il est mentionné que le projet de loi va demander lucidement que soit exposée une aide active à mourir pour le patient. Et si nous ne pouvons laisser les médecins et les proches des malades assumer seuls le poids d'une telle responsabilité, je cite encore, nous nous devons de l'assumer collectivement. Donc je soumets aussi cette réflexion d'exposé des motifs qui conclut ensuite, et qui revient d'ailleurs à une question antérieure qui a été posée sur la liberté, c'est nous devons reconnaître à chacun le droit d'aborder la fin de vie dans le respect, je cite, des principes d'égalité et de liberté qui sont le fondement de notre République. Enfin, le troisième point d'ordre déontologique, c'est l'un des derniers articles de cette proposition de loi, le dernier alinéa de l'article 4, qui, je cite, stipule que sera réputée de mort naturelle la personne à qui on aura donné consciemment le droit de mourir, d'être assisté médicalement pour mourir. Donc ma question s'adresse aux médecins. Déontologiquement, et nous savons que le Conseil de l'Ordre des médecins s'est cabré quand même clairement par rapport à ce texte. J'adresse donc cette question à vous, docteur Richard. Comment réagissez-vous sur la signature de ce que l'on pourrait appeler un faux, puisqu'on doit signer un document par lequel le patient est décédé de mort naturelle alors qu'il y a eu une assistance médicalisée pour mourir? Merci.
Voilà, ça mériterait toute une soirée déjà autour de tes questions. On va quand même, comme je m'y étais engagé, prendre une autre dernière question s'il y en a. Voilà, alors on va faire passer le micro tout au fond de l'autre côté de la rangée. Merci de faire passer le micro. Et une question, si possible, brève.
Une question tout à fait brève. Merci. D'abord, je voudrais m'associer aux remerciements qui ont déjà été exprimés sur la clarté de vos exposés. Je remarquerai qu'ils ont beaucoup à voir avec l'analyse de cas individuels. Ma question, c'est celle que vous avez inscrite sur le papier d'invitation. C'est quelle société voulons-nous? Autrement dit, redoutez-vous des dérives dans les lois qui sont en discussion ou au contraire, espérez-vous des gains et des joies importants pour les patients?
Ça valait la peine de prendre cette question. Merci, monsieur. Alors, Patrick, Marie-Sylvie, je crois que vous avez de quoi.
Oui, mais nous n'allons pas y passer une soirée entière. Donc, rapidement, que dans un texte de loi, on dise que tel événement a suscité une grande émotion et que ce soit une raison, alors que le fond de la question, l'émotion, éveille. Et je crois qu'il est heureux que l'homme soit accessible à des émotions. Et les émotions d'ordre moral sont très importantes. C'est là qu'on saisit, il peut y avoir des... On réagit, et cette réaction immédiate éveille notre attention. Donc, heureusement qu'il y a des émotions, mais l'émotion ayant suscité notre attention devrait nous conduire à la rationalité, au raisonnement, à l'examen des questions de façon calme. Et malheureusement, je trouve que ce n'est pas ce qui se passe. Et que l'émotion à elle seule soit prise pour un argument, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. À propos du principe d'égalité et de liberté, eh bien, je crois que c'est très important d'essayer de prôner l'égalité et la liberté. Mais ça pose une question de fond. Comment promouvoir l'égalité et la liberté? Comment promouvoir l'égalité en sachant qu'il y a des personnes qui, justement, sont dans des situations difficiles? Et quelqu'un dans une situation difficile, comment prendre les conditions pour qu'elle puisse décider, soit respectée autant qu'une autre? Et la question de la liberté, comment préserver la liberté de quelqu'un qui est dans une situation de grande vulnérabilité? Préserver la liberté de quelqu'un qui demande la mort, est-ce que c'est lui dire « vous demandez la mort, eh bien nous vous la donnons » ou est-ce que c'est lui demander « pourquoi demandez-vous la mort et est-ce que nous pouvons vous aider à vivre ?» Et je crois que ça, c'est la question qui est un petit peu barrée en France. On répond de façon émotionnelle, donc on ne va pas jusqu'au fond de la question. Moi, je crains beaucoup, pour prendre la question des dérives, que s'il y a une loi qui voudra sans doute être très restrictive, je pense que d'une part, au fond, elle aura une application dès le départ assez large. On dira, mais il faut définir des cas exceptionnels. C'est totalement illusoire par définition. L'exceptionnel ne se définit pas. Si on le définit, on en fait une situation particulière. Et donc, dans telle situation, qui sera forcément assez large, les personnes peuvent demander la mort. Et la dérive ensuite, ça, on peut voir ce qui se passe aux Pays-Bas et en Belgique, c'est des demandes ensuite d'élargir, parce que la loi du moment n'apporte pas une solution à tout. Il faut apporter une solution. Il y aura toujours des cas douloureux, donc il faudra toujours élargir la loi. Je pense que on ne touche pas à un interdit fondamental, comme l'interdit de donner la mort. On ne touche pas sans provoquer de profonds changements dans une société. Alors, la société que je désire pour ma part, c'est une société où on fasse beaucoup pour les malades en fin de vie, qu'on fasse beaucoup pour ceux qui sont en proie à la souffrance, mais qu'on ait ce repère. Non, chez nous, on ne provoque pas la mort.
Marie-Sylvie.
Eh bien, Patrick a tout dit, donc c'est bien. Juste l'égalité, moi je trouve qu'il y a peut-être une lutte à mener pour une plus grande égalité de l'accès aux soins, et aux soins palliatifs en particulier. Après, on verra le reste. Mais déjà, là, il y a une forte inégalité de chances de pouvoir bénéficier de ces soins qui sont des soins de soulagement et de confort. Ensuite, quand les malades disent qu'ils ne veulent plus vivre, Patrick venait de dire, voilà, on va les écouter et puis on va les aider à vivre. Moi, je dirais, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, je dis souvent aux malades, moi, je ne vous force pas à vivre. Je ne vais rien faire pour vous forcer à vivre. Parce que, voilà, dans des situations, s'il y a, je ne sais pas, tout à fait en fin de parcours, une fièvre qui s'installe, une petite infection, etc., est-ce qu'il faut à tout prix faire des hémocultures, traiter par des antibiotiques cette fièvre ou laisser faire, quoi. Donc, la promesse que je fais souvent aux malades, de ne rien faire pour les tirer à tout prix de telle et telle complication et de ne pas prolonger leur vie, leur suffit pour me dire « Ah, ça me rassure, je suis d'accord avec ça. » Je vois que vous n'avez pas à me forcer à vivre, mais en même temps, le temps qui reste, il faut bien sûr en chercher une certaine qualité. Après, au niveau de la liberté individuelle et de société qui pourrait être très individualiste, et qu'on aimerait davantage solidaire. Moi, quelque chose qui m'étonne quand même tous les jours, c'est quand je demande à des patients, je demande souvent, qu'est-ce qui vous donne envie d'ouvrir les yeux ce matin? Voilà, comment est-ce que certains continuent à vivre dans des situations invraisemblables quand même, de grande précarité? Ce que j'entends, c'est toujours la même chose, les autres, la relation avec les autres. Voilà. Alors si cette relation avec l'autre est si forte, y compris les personnes qui disent « mais rien ne m'intéresse, même pas votre visite ». Mais les malades qui nous disent ça nous retiennent 3/4 d'heure dans la chambre. Les autres qui apprécient notre visite se satisfont de 10 minutes. Donc il doit y avoir quand même quelque chose qui se passe. Voilà. Donc je suis quand même étonnée par la force, vraiment la force de la relation à l'autre. Et tout d'un coup on la nie en disant ben, « chacun pour soi, allez, moi c'est ma liberté, c'est ma mort, c'est ma vie ». Et puis vous allez vous occuper de me donner la mort. Voilà. Et puis, moi, j'ai juste envie de vraiment souligner ce qui fait notre vie au quotidien, mais c'est partout ailleurs, dans d'autres lieux de soins. C'est cette grande sollicitude et cette grande solidarité qui s'exprime sans cesse entre des malades, entre des proches et des malades, entre des soignants, des malades, des proches, etc. Entre les malades qui prennent soin de nous. Quand un malade en fin de vie vient vous dit le lundi matin, vous avez passé un bon week-end, vous dites, mais je suis tombé d'une autre planète, quoi. Il se soucie de moi. Voilà. Donc, on est quand même dans un échange longtemps, longtemps. Alors, il y a ce moment où le coma, ou la perte de certaines facultés, ou la démence, mais même des personnes démentes. Combien de fois dans la démence, on a un sourire, une poignée de main, quelque chose qui dit encore, j'existe, tu existes, et la relation fait que nous sommes encore là, présent, quelqu'un, ensemble. Donc, voilà, moi, j'entends ça tous les jours. En même temps, je ne nie pas, et là, vraiment, je voudrais qu'on l'entende, je ne nie pas certaines situations très compliquées. Et on a le bénéfice de les recevoir souvent. Des situations très compliquées, mais de là à faire une loi qui change considérablement notre société, je ne pense pas qu'il faille le faire. Et juste un mot quand même, parce que on a dit tout à l'heure que les demandes d'euthanasie étaient souvent faites par l'entourage. Je voudrais souligner simplement la fatigue des aidants. C'est de plus en plus à la mode ce thème, les aidants, comment aider les aidants. Mais ce n'est pas un thème anodin. Il y a une grande, grande fatigue de l'entourage des malades, de l'entourage des personnes âgées, surtout des personnes démentes. Et là, il y a peut-être aussi à continuer, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes, à continuer à chercher comment aider, s'entraider pour maintenir cette personne malade ou démente en lien avec ses proches, sans que les proches s'épuisent avant la personne malade. Or, dans les demandes d'euthanasie des proches, il y a souvent un épuisement considérable, mais considérable. Et ça n'est pas rare que des proches meurent avant la personne malade ou la personne âgée. Donc là, c'est une question de société, là encore.
Oui, moi je ne suis ni médecin, ni éthicien, vous l'avez compris, je suis journaliste et simple citoyen, mais je voudrais quand même tenter d'apporter mon modeste témoignage à la question que nous posons dans cette soirée, fin de vie, quelle société voulons-nous ? 30 secondes pour vous dire qu'en préparant ce dossier, en octobre dernier, on a eu la chance, parce que certains de nos confrères l'ont jugé suffisamment intéressant pour nous inviter à une émission sur une radio publique où des gens appellent et donnent leur témoignage. Et évidemment, ce type d'émission, c'est beaucoup des partisans de l'euthanasie qui ont appelé. Et moi, je voudrais faire partager une émotion que j'espère réfléchie. C'est une jeune femme qui, on était à la fin de l'émission, une jeune femme prend donc la parole pour nous raconter son histoire et nous dit, voilà, elle nous dit qu'elle est plutôt partisan de l'euthanasie et elle explique pourquoi. Elle a accompagné son compagnon en fin de vie à l'hôpital, c'est un jeune couple, et elle a expliqué à l'antenne que, effectivement, son compagnon a été pris dans des traitements antidouleurs. Les médecins lui donnaient des calmants pour l'apaiser, etc. Mais elle avait senti une grande détresse elle-même et lui-même, parce que pour le reste du quotidien de la vie, la musique, la lecture, les caresses, etc., elle n'avait pas eu cet accompagnement que vous avez souligné, qui est la grandeur des soins palliatifs. Et elle a conclu son témoignage en disant « Eh bien, je considère moi que mon compagnon a vécu 12 jours en trop. » Alors évidemment, il fallait réagir à ça, et évidemment, on ne peut pas la juger. Mais voilà, moi je me suis dit à ce moment-là, et c'est ce que j'essaie de lui répondre, que fin de vie, quelle société voulons-nous ? Moi j'espérais que ni mes parents, ni moi, ni mes enfants, ni nos parents, ni vous, ni nos enfants, ne vivent dans une société où des gens, où on puisse dire que des gens ont vécu des jours en trop. Et voilà, je suis assez fier du combat qu'on mène, non pas contre l'euthanasie, mais pour les soins palliatifs, parce qu'il nous semble que c'est la société que nous voulons.
Merci Antoine. Merci au docteur Marie-Sylvie Richard, au père Patrick Verspiren de nous avoir éclairé sur des enjeux si importants autour de la fin de vie. Ça va nous aider, je crois, vraiment à suivre les débats des semaines et des mois à venir. Merci à Antoine Dabundo et à l'hebdomadaire Pèlerin. Je rappelle le dossier spécial « Fin de vie, quelle société voulons-nous ?». Si vous ne le trouvez plus dans les bonnes librairies, vous pouvez en trouver de bonnes feuilles sur le site internet du Pèlerin. Vous trouverez à la sortie, comme vous en avez l'habitude, des urnes où vous pourrez déposer votre livre « Participation aux frais ». Je vous remercie de votre soutien et je vous donne rendez-vous au mardi 8 janvier prochain pour la 4e soirée d'éthique publique de l'année universitaire. Les choses ne sont pas encore complètement calées, ça arrive souvent d'ailleurs, mais il n'est pas impossible que nous nous interrogions sur l'avenir de l'Europe. Certaines fois, on peut se demander si elle n'est pas en soins palliatifs. Quelle Europe voulons-nous? Quelle Europe pouvons-nous alors que l'Union européenne va recevoir dans quelques jours le prix Nobel de la paix? D'ici là, bonne marche vers Noël et merci de votre fidélité.